Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Bonjour Camille, bonjour Mathieu, c'est Anthony de Palaiseau. J'ai été un peu étonné dans votre superbe émission hier sur les champignons dans les sols d'entendre Lionel Rangard expliquer que le labour déstockait du carbone dans les sols. En tant qu'étudiant à AgroParisTech, nous, on nous apprend plutôt que les dernières méta-analyses ont prouvé ou ont montré qu'il n'y avait pas cet effet que l'on a cru pendant longtemps de déstockage du carbone dans les sols par la pratique du labour, ou plutôt de restockage du carbone par la fin du labour. Voilà. Donc, je voulais faire juste ce petit rectificatif. Merci.
Hélène de Rennes, bonjour. Hier, il y avait une émission sur votre antenne sur les assurances et les zones à risque. Ils ne peuvent plus couvrir certaines zones sujettes aux aléas climatiques. Comment est-ce que les centrales nucléaires sont-elles assurées? Et ne prend-on pas un énorme risque en construisant d'autres alors que les catastrophes climatiques se multiplient et que les assurances disent bien que ça devient ingérable?
Bonjour, Michel d'Épernon. Bonjour à tous. Le Café citoyen d'Épernon, dans l'Eure-et-Loire, organise le 7 avril une grande journée. Défi climatique, s'informer, se former, se bouger. Il y aura des tables rondes avec des scientifiques, des entreprises, des acteurs locaux, une belle expo et le témoignage de collégiens et lycéens sur leurs actions. Pour plus d'infos, tapez Café citoyen Épernon et vous y êtes. Merci pour vos émissions.
Loïc de Saint-Nazaire-en-Royans, donc dans la Drôme. J'écoutais avec un grand intérêt l'émission concernant la vitalité du sol et le rôle des champignons. Et je voudrais juste ajouter une petite contribution à mon niveau. C'est notamment le rôle des vers de terre dans les sols, quoi. Donc, qui ont vraiment un rôle d'aérateur, qui permet une meilleure circulation de l'oxygène, de l'eau, etc. Voilà. Et donc, vraiment un rôle fertilisant. Et j'ai en mémoire beaucoup de témoignages d'agriculteurs qui était passé d'agriculture conventionnelle en agriculture biologique et qui était très fier quelques années après, qui disait « mais c'est super, mes sols revivent ». Voilà. Et merci pour la qualité de vos émissions.
Et merci pour cette séquence vers de terre. Vos messages sur ce répondeur 01 56 40 45 45. Il s'agit d'un manifeste pour une ère nouvelle qui pose les bases d'une transition écologique durable et équitable ancrée dans la coopération. Dans un monde où les défis écologiques et démocratiques appellent à des réponses immédiates et profondes, l'urgence de repenser notre manière de vivre ensemble se fait pressante. Dans un ouvrage, donc Coopérer et se faire confiance, publié aux éditions Rue d'Échiquier, l'économiste Éloi Laurent propose donc une réflexion sur les nouvelles formes de coopération sociale libérées des chaînes de l'économisme et de la numérisation toute puissance. Il démontre dans ce livre comment la coopération humaine, longtemps confondue avec la simple collaboration, détient les clés d'une réconciliation entre les humains et les non-humains. Quelles sont donc les vertus de la coopération? Pourquoi faut-il repenser nos interactions sociales? C'est le sujet de cette Terre au Carré avec vous, Éloi Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, professeur à Sciences Po, Stanford et l'École des Ponts ParisTech. La coopération, c'est un sujet sur lequel vous avez déjà écrit. Vous revenez donc sur cette notion importante à vos yeux. Vous allez nous expliquer pourquoi la coopération est aujourd'hui dévorée par la collaboration et comment elle pourrait être la source de la prospérité humaine. On en discute avec les messages des auditoristes qui nous rejoignent dès maintenant sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. À tout de suite. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Ouais, la loi pour interdire les polluants éternels, les PFAS, votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je suis allée hier à la manifestation des salariés de SEB, poil Tefal à la main, dont le revêtement ne présente aucun danger selon eux et selon leur patron, parce qu'il était là aussi.
Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, dossier préparé par Lucie Sarfati avec Corentin Rouchy à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y a trois mots dans la langue grecque pour désigner l'amour. L'un des mots, c'est Eros. Eros est une sorte d'amour esthétique. Ensuite, la langue grecque parle de philia, qui est un autre niveau d'amour. C'est une affection intime entre amis personnels. Ensuite, la langue grecque a un autre mot appelé agapé. Agapé c'est plus que l'amour romantique. Agapé, c'est plus que l'amitié. Agapé n'est pas quelque chose d'affectueux. Agapé comprend la bonne volonté créatrice et rédemptrice pour tous les hommes. C'est un amour débordant qui ne cherche rien en retour. Les théologiens diraient que c'est l'amour de Dieu qui opère dans le cœur humain.
La voix du pasteur Martin Luther King en novembre 1957 à Montgomery dans l'Alabama. Et cet extrait, vous le citez dans votre livre, Éloi Laurent. Pourquoi ces mots résonnent pour vous ?
Bah d'abord, merci beaucoup. C'est une grande émotion d'entendre Martin Luther King Jr. Comme ça au micro de France Inter et dans une émission sur l'écologie. Et ça nous renvoie à une époque qui sont les années 60, les années 70, quand il y a eu ce grand mouvement civique où on a véritablement eu la première génération de gens engagés pour l'écologie, pour comprendre la destruction de la biosphère, pour changer la société. Et à l'époque, je pense, c'était beaucoup plus naturel, je dirais, de connecter ça à l'état social. C'est-à-dire qu'on considérait pas qu'il y avait l'écologie d'un côté et la société de l'autre, mais que c'était une seule et même chose. Et Martin Luther King a passé sa vie, et il en est mort, on pourrait dire, à dénoncer l'état de la société américaine comme un tout problématique. C'est-à-dire qu'une société qui détruit ce qu'on appelle la nature, c'est aussi une société dans laquelle les liens sociaux sont très problématiques. Et c'est exactement ça qu'il dit là, c'est-à-dire qu'il nous dit, il y a des liens sociaux, il y a les liens intimes, il y a les liens sociaux, il y a les liens vitaux, et tout ça forme un ensemble qu'est l'humanité. Et si on veut avoir un nouveau rapport à la nature, aux êtres non humains, il va falloir repenser nos liens sociaux. Et c'est ça le sens de ce livre. C'est comment, en fait, essayer de comprendre que cette question écologique, elle commence, en fait, presque dans nos maisons, dans nos familles, avec nos amis. Voilà, c'est ça, en fait, l'écologie. L'écologie, c'est une question sociale et c'est même une question de liens sociaux.
Martin Luther King Jr., il nous parle beaucoup d'amour hein, dans cet extrait. Et l'amour, c'est aussi au cœur de votre ouvrage, dans cette notion de coopération. Vous devenez l'économiste de l'amour, Éloi Laurent, c'est ça
Pourquoi l'idée pas L'économie de l'amour, c'est évidemment horrible. On n'a pas du tout envie d'être l'économiste de l'amour. Mais l'amour de Martin Luther King, c'est un amour politique. C'est un amour social, mais c'est aussi un amour politique, c'est un amour qui change le monde. Et l'amour, c'est la pluralité des sentiments amoureux. L'amour, ça peut être l'amour de son travail, ça peut être l'amour de ses enfants, ça peut être l'amour d'une idée, ça peut être l'amour de la terre, ça peut être l'amour de sa terre. Et donc, de dire la coopération, c'est pas un comportement utilitariste pour avoir un intérêt immédiat qui serait parfaitement identifié, mais c'est une espèce d'élan avec la pluralité des sentiments amoureux comme matrice, bah en fait, c'est pas du tout un amour qui serait ni mièvre, ni simplement sentimentaliste, c'est de comprendre qu'en fait, que pour les humains, dans les sociétés humaines, tout ce qui se fait de grand se fait par l'amour dans toute sa pluralité. Et Martin Luther King nous a montré ça.
Ouais, alors, il y a une notion religieuse aussi hein, dans ce message. Vous la reprenez à votre compte ou pas ?
Religieux, en tout cas, peut-être éthique. Oui, certainement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose, une espèce de sentiment supérieur. Nous sommes, vous le chroniquez en un sens quotidiennement, au bord du précipice de la crise écologique. D'accord ? Je sais qu'on parle de beaucoup d'autres choses en France et dans le monde et que les sources de diversion sont innombrables. La réalité de ce que montrent les études scientifiques, c'est que les crises écologiques aujourd'hui vont comme à la vitesse d'un cheval au triple galop. La crise climatique, la crise des écosystèmes, la crise de la biodiversité, la crise des ressources naturelles. Toutes les études scientifiques nous montrent que ça s'aggrave de façon absolument spectaculaire et qu'en un sens, toutes les diversions qu'on met devant ça ne sont là que pour essayer de reculer le moment. On va regarder ça en face. D'accord ?
Et vous dites parallèlement, c'est une crise du lien social aussi.
Voilà. Et donc, il faut comprendre ce qu'on est en train de rater. On est en train de rater collectivement absolument quelque chose de fondamental. Et donc, si on veut essayer de comprendre ce qu'on est en train de rater, il faut essayer de revenir aux sources de ce qui a fait notre prospérité, notre réussite. L'humanité, c'est pas l'histoire d'un échec. L'humanité, depuis des millions d'années, c'est l'histoire d'une prospérité éclatante. Qu'est-ce qui fait la prospérité humaine ? C'est ça la question de ce livre. Et ce livre prétend, en moins de 100 pages, éclairer la source fondamentale de la prospérité humaine, qui est la coopération. C'est pas la taille de notre cerveau, c'est pas le génie individuel, c'est pas la capacité de créer des outils, fût-il numérique, c'est la capacité d'être ensemble, de rêver ensemble, d'imaginer ensemble. Et c'est cette capacité-là qu'il faut remettre en mouvement face aux crises écologiques.
La coopération, c'est un sujet, et puis également la confiance, sur lesquels vous avez déjà écrit en 2012 dans l'économie de la confiance, ou en 2018 dans l'impasse collaborative. Pourquoi vous revenez sur ce sujet ? Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur ce thème-là ? Pourquoi vous avez eu envie d'écrire à nouveau ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Alors, il s'est passé une toute petite chose qui est le Covid. Voilà. C'est quelque chose de vraiment infime. Et je me souviens des échanges que j'avais avec Camille Cronier au moment du Covid et elle me demandait, c'était le confinement, voilà, où j'étais, ce que je pensais et quel était le mot, en fait, qui pour moi était le mot essentiel de la période. Et je lui ai dit, c'est isolement. Parce que isolement, il y a cette idée que l'homme n'est pas une île. Et que cette idée de l'isolement, en fait, qu'il y a quelque chose de profondément, en un sens, anti-humain dans cette perte des liens sociaux. Et le point de départ du livre, c'est de dire, la crise du Covid, c'est une crise des liens. Une crise des liens avec la nature et les êtres non humains. C'est ça la question des zoonoses et de l'origine du Covid, même si on refuse de le regarder en face encore aujourd'hui. Et la question des liens sociaux, c'est-à-dire ce qu'on a perdu de plus cher, c'est nos liens sociaux. Et on a compris, en fait, que c'est ce qu'on avait de plus cher dans nos vies. Nos vies, c'est d'abord nos liens. Voilà. Et le livre part de là en disant « faisons comme si le Covid avait existé ». Okay, faisons comme si nous étions dans un monde dans lequel c'est un événement important parce qu'on a tendance à ne plus penser que ça a existé. Et c'était il y a seulement 4 ans. D'accord? Et le monde a changé considérablement depuis.
En engendrant une crise de la solitude aussi, c'est ce que vous dites, une épidémie de solitude.
En engendrant même une pandémie de solitude. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il y a une crise des liens sociaux en France, pour ne pas voir qu'il y a une crise de la santé mentale dans la jeunesse française, pour ne pas voir qu'il y a une crise de l'isolement social, qui n'est pas seulement la question de la solitude, du choix individuel d'être seul ou d'être, de ne pas être seul dans sa vie. C'est l'isolement social. Les gens sont petit à petit isolés les uns les autres et le numérique joue un rôle là-dedans. Et donc, si on ressaisit cette question et si on essaye de faire rentrer la crise du Covid dans le tableau des crises écologiques et dans la question du climat, on comprend qu'en fait, le Covid, c'est le moment où à la fois on a tout perdu, on a perdu ce qu'on avait de plus cher, on a compris que c'était ce qu'on avait de plus cher, et grâce à nos liens sociaux, on a réussi à faire face. Ben, c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on fasse dans les décennies à venir, et pour ça, il faut se réapproprier cette coopération, parce que, et c'est l'autre argument du livre, cette coopération nous a été en un sens volée par le numérique. On nous fait croire que nous vivons dans un monde hyper collaboratif, dans un monde hyper connecté, c'est vrai. Mais en fait, derrière cette hyper collaboration, qui est financiarisée, qui est monétisée, qui est quantifiée en permanence, d'accord, qui est la civilisation du numérique, il y a une crise très profonde de la coopération dans toutes ces sphères. Les liens intimes, les liens sociaux et les liens vitaux.
C'est un sujet qu'on a traité abondamment les jours passés sur France Inter avec une journée spéciale consacrée justement en particulier au smartphone et à la façon dont ça modifie aujourd'hui nos liens dans la société. Comment on arrive à estimer le degré de dégradation de nos liens sociaux? Parce qu'on peut le dire, oui, effectivement, depuis le Covid, les choses se sont distendues, il y a beaucoup de solitude, mais est-ce que scientifiquement, comment on le montre ça vraiment?
Alors d'abord, il y a des dizaines d'études qui paraissent depuis une quinzaine d'années sur l'épidémie de solitude. Donc scientifiquement, concrètement, vous avez des revues médicales qui documentent de plus en plus la montée en puissance de la solitude, de l'isolement social et de la souffrance qui accompagne cette solitude et cet isolement.
Et c'est quoi la solitude alors? C'est vivre seul? C'est vivre sans conjoint, sans famille? C'est quoi?
C'est effectivement être détaché en fait de liens sociaux, ne pas avoir de rapports sociaux qui sont fréquents. Et donc, c'est vivre en fait dans des structures sociales qui petit à petit vous isolent. Et là, on est dans un paradoxe. On est censé, une fois de plus, être dans un monde dans lequel le numérique est censé nous relier en permanence. Donc, comment se fait-il qu'on ait à la fois cette hyper connexion et en même temps cette désocialisation? Parce que précisément, le numérique désocialise. Et c'est très bien documenté dans les rapports de la Fondation de France, les rapports des solitudes en France, dont la dernière édition vient de sortir, très intéressante sur la question des lieux, comment recréer en fait de la socialisation par des lieux de socialisation. Et c'est une interrogation qui parcourt la société britannique, la société américaine. Il y a des études qui sortent par dizaines. Il y a un rapport considérable qui est sorti sous la plume du responsable de la santé publique aux États-Unis l'année dernière sur le coût sanitaire de l'isolement social.
Donc comment on recrée du lien aussi, c'est l'enjeu. Hein,
exactement, c'est pas seulement.
Et les politiques commencent un peu à s'y intéresser à cette idée de lien quand même, de recréer ce lien.
En France, oui, on entend de plus en plus ce thème-là, ce thème de, mais sur le mode souvent de la solitude. La question, à mon avis, plus fondamentale, c'est l'isolement social. Comment le travail conduit à l'isolement social? Comment effectivement même l'éducation, la santé dans toutes les sphères.
On va en parler dans un instant. Ouais. Éloi Laurent, on verra justement comment et pourquoi cette coopération s'est dégradée à tous les niveaux. C'est l'objet de ce livre, Coopérer et se faire confiance, rue de l'Échiquier.
It was the first thing we did.
After Sex à l'instant sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré sur France Inter.
Agnès et Raphaël sont élèves en terminale au lycée des Arènes. Depuis l'ouverture de Parcoursup, leur réflexe plusieurs fois par jour, c'est d'aller consulter la plateforme et leur classement en liste d'attente.
Plus ça avance, plus ça ralentit le rythme dans la liste d'attente. Donc, j'ai gagné 800 places depuis le début à Panthéon-Assas, mais il y a 50 places dans ma formation, donc c'est problématique. On m'a toujours dit ça, en fait, si tu travailles bien à l'école, tu pourrais aller où tu veux. Bah non, en fait. On nous dit que la fac n'est pas sélective, mais quand on voit nos classements, bien sûr que ça l'est.
Voilà, reportage de France 3 Occitanie en 2018. Parcoursup, symptôme d'un système où la compétitivité culmine plutôt que la coopération. Éloi Laurent, parce que c'est un des sujets aussi que vous abordez, hein, l'éducation.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Si on prend en fait les trois sphères de la coopération que j'essaye de reprendre dans le livre, la question des liens intimes, c'est-à-dire effectivement des relations romantiques, on pourrait parler longtemps de ce que le numérique fait aux relations romantiques. La question des liens sociaux, dans les sphères, dans les dimensions des liens sociaux, il y a la question de l'éducation et de l'école qui est absolument majeure. Qu'est-ce qu'on a comme débat en France aujourd'hui sur cette question? On a cette espèce de débat un petit peu étrange entre d'un côté l'éducation aux limites et de l'autre l'éducation positive. Entre le fait qu'il faudrait imposer aux enfants des limites et de l'autre qu'il faudrait les laisser libres. La réalité, c'est qu'ils sont contraints à peu près tout de suite, à peu près dès la classe de CP, par une batterie d'indicateurs absolument invraisemblables. Quand vous êtes parent d'enfants qui sont en CP et que vous avez le premier rendez-vous avec la maîtresse et que vous voyez qu'il y a 25 indicateurs qui sont déjà en train de suivre et de traquer votre enfant et que ça ne s'arrête plus jusqu'à maintenant Parcoursup et mon master, on est en fait dans un débat beaucoup plus fondamental entre l'éducation collaborative d'un côté, à l'aide d'indicateurs, à l'aide de quantifications toujours plus, qui ont toujours plus d'emprise sur les parcours individuels, et l'autre question fondamentale, qui est pourquoi est-ce que le système finlandais réussit si bien, c'est précisément la coopération, c'est-à-dire le fait d'avoir des jeux libres, de laisser l'espace de la connaissance, et cette distinction, c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire la collaboration, ce sont des processus qui sont très profondément utilitariste, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un utilitarisme de l'éducation en France qui conduit à ce genre de commentaires. J'ai gagné 800 places, j'en ai perdu 25, et bientôt on va avoir des marchés, des places où les élèves vont s'échanger et se vendre en fait des places selon leur classement. Et puis de l'autre côté...
Est-ce que ça se fait ça aux États-Unis? Parce que vous avez l'expérience américaine justement pour pouvoir peut-être nous donner une idée de ce qui va se passer chez nous bientôt.
Alors, c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des choses aux États-Unis qui sont propres aux États-Unis, mais aux États-Unis, depuis 20-30 ans, il y a une dégradation absolument phénoménale à la fois de l'éducation publique d'un côté et de l'autre côté, une espèce de professionnalisation de l'enfance où vous avez en fait des enfants qui, dès l'âge de 12 ans, commencent à préparer leur CV pour les universités les plus compétitives. Et donc, vous voyez la dérive. C'est pas apprendre parce que vous voulez connaître, c'est apprendre parce que vous voulez faire et vous voulez devenir quelqu'un. Et vous calculez votre trajectoire éducative et vous essayez de cocher des cases pour faire en sorte d'avoir un CV qui soit le plus conforme à ce que vous croyez qu'on attend de vous à Harvard ou à Stanford. Et ça, évidemment, ça donne à 18 ans des gens qui n'ont aucun moyen de comprendre ce que veut dire connaître.
Et aujourd'hui, toute la chaîne éducative est contaminée, au fond, par ce mécanisme-là.
Entièrement contaminée, financiarisée, professionnalisation de l'enfance, on choisit ses cours, ses professeurs, le temps qu'on va passer, l'investissement. C'est ce que les économistes ont appelé dès les années 50 le capital humain. Et on constitue un capital humain. Et on voit, en fait, de quelle façon la logique collaborative est en train de dévorer complètement l'éducation qui devrait être un espace de liberté de connaissance.
Éloi Laurent, sur cette idée donc de coopération, vous cherchez à comprendre pourquoi nous coopérons aussi, nous, l'espèce humaine. D'abord, est-ce que c'est propre à l'espèce humaine de coopérer ou est-ce que dans le règne animal, on a aussi des exemples de coopération? Et qu'est-ce que ça nous apporte au fond de coopérer?
Alors, c'est une vraie question et c'est une question que moi, je ne saurais pas trancher parce qu'il faut en parler avec des biologistes et il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes de l'éthos animal et qui sont capables de dire que les animaux incontestablement collaborent, voire coopèrent. Il y a tout un débat aujourd'hui sur la question de la coopération, par exemple dans les forêts, entre les arbres et les autres espèces, etc. Ce que je pense, moi, c'est que la coopération nous distingue dans le règne du vivant. C'est-à-dire que nous sommes, dites, une espèce ultra sociale, ultra coopérative. C'est-à-dire, ce qui fait la spécificité humaine, c'est précisément notre capacité à coopérer. Et dans notre évolution, c'est la façon dont les logiques coopératives se sont progressivement imposées aux logiques de sécession.
Mais ça, on le voit chez les fourmis, par exemple.
Oui, mais les fourmis...
C'est des sociétés animales qui ne vivent que sur la coopération.
C'est absolument... Elles vivent, à mon avis, sur la collaboration. C'est-à-dire, si on pense que la collaboration, c'est travailler ensemble, cum laborare, d'accord? Les fourmis incontestablement travaillent ensemble. Est-ce que les fourmis échangent librement de la connaissance et se la transmettent de génération en génération? Probablement pas, d'accord? C'est-à-dire coopérer, qui est œuvrer ensemble à une finalité qui peut être autre que simplement le travail et le faire, et c'est très important, parce que là, ici, on est dans une émission sur la question de l'écologie. L'idée que l'économie n'est que dans la logique productiviste, que c'est simplement du travail pour la croissance, si on arrive à expliquer qu'en fait, non, l'économie, c'est en fait une facette de la coopération humaine qui est beaucoup plus riche que ça, et que la prospérité humaine, c'est pas la collaboration, le faire pour produire et le faire pour la croissance, ou le travail pour la croissance, mais c'est coopérer, c'est-à-dire échanger de la connaissance, ben on comprend en fait qu'il faut se libérer de l'emprise économique, de même que se libérer de l'emprise numérique pour retrouver ce sens de la coopération et affronter les chocs que l'on a en face de nous.
Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que c'est un économiste qui nous parle quand même.
Voilà, c'est ça.
Donc, mais vous devenez plus sociologue qu'économiste presque dans des ouvrages comme ça.
Alors, mon éditeur me disait plutôt philosophe, donc moi ça me va très bien.
Bon, voilà.
Thomas Piketty, qui est sans doute l'économiste aujourd'hui le plus célèbre au monde, dit dans l'introduction du Capital au XXIe siècle qu'il ne veut plus être considéré comme un économiste.
Bon, on le sent chez vous quand même.
Il veut être considéré comme un chercheur en sciences sociales. Donc, moi, je suis un économiste immergé dans les sciences sociales et je rajouterais dans les sciences du vivant. C'est très important que l'économie soit en lien. Et pour moi, l'économie qui a du sens, c'est l'économie qui dialogue.
Parce c'est que pas c'est, l'économie c'est qui c'est une critique de l'économisme.
Absolument, c'est une critique de l'économisme.
Alan nous écrit sur franceinter.fr, il revient sur l'isolement dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est l'état général de notre monde et des informations constamment négatives qui ont fait que je me suis isolée et lentement désociabilisée. Je suis plongée dans une véritable mélancolie au sens propre du terme, dans laquelle je m'enfonce lentement.
Mais c'est le cas de beaucoup de gens et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et toutes les études qui sortent, c'est vrai beaucoup aux États-Unis mais aussi en France, sur l'usage par les jeunes des réseaux sociaux et sur le phénomène, par exemple, de ce qu'on appelle le terrier de lapin. Le fait que l'algorithme, tout d'un coup, un jour, vous envoie une vidéo sur un sujet que vous n'avez pas spécialement sollicité et que tout d'un coup, l'algorithme vous piège ensuite dans des centaines de vidéos sur ce sujet et vous isole complètement pour faire en sorte que vous deveniez complètement addictif au sujet, que vous utilisiez ce support de plus en plus... C'est absolument pas relier les gens entre eux, c'est le contraire même, et pour une raison fondamentale. Ces entreprises du numérique, il faut bien comprendre une chose, on a le sentiment que c'est un service public. Ce sont des entreprises privées, dont le but est de faire du profit.
Et d'avoir des données, logique. Et de récupérer des données.
Et de récupérer des données pour les commercialiser. Donc derrière tout ça, la seule chose qui intéresse ces entreprises, c'est que vous utilisiez de plus en plus ces outils. Ce que vous en faites et ce que ces outils vous font, c'est pas leur sujet.
Oui, mais là le message d'Alan par exemple, et il y en a d'autres qui je pense partagent, y compris sur l'écologie, c'est aussi les informations négatives. Si on prend la crise écologique dont vous parliez, c'est difficile de donner des bonnes nouvelles, ou alors c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, quoi.
Mais je crois que le problème n'est pas l'information, le problème c'est le dialogue sur l'information. Le problème, c'est pas l'individu face à un déluge d'informations. Le problème, c'est d'échanger avec quelqu'un sur les informations en question. Et c'est ça qui manque fondamentalement. Ce sont des espaces de discussion de l'information.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on se les prend dans la tête tout seul chez soi et on peut pas évacuer un peu en discutant avec quelqu'un.
Exactement. Et dès que vous discutez avec quelqu'un de la situation, l'information change de nature. Et c'est dans cet échange-là que réside, une fois de plus, la prospérité humaine, y compris sur le plan de la santé mentale. La question fondamentale, vous avez des études qui montrent que l'isolement social, c'est aussi grave pour la santé que de fumer un paquet de cigarettes par jour. Parce que fou, et vous avez des espérances de vie absolument, des différences colossales entre les gens qui sont isolés socialement et les gens qui ont... Et la grande étude, très belle étude, conduite par Harvard sur 80 ans, sur ce qui explique l'espérance de vie, la longévité, et le bonheur, la félicité, et qui montre que le facteur déterminant, c'est la qualité des relations sociales, ça devrait être la matrice de toutes les politiques publiques.
Éloi Laurent, vous restez avec nous, il y a un sujet de santé publique qui va vous intéresser tout de suite.
France Inter, la Terre au carré.
14h30, on passe au vert, Camille Cronier.
Et que se passait-il hier en début d'après-midi pendant qu'on faisait l'émission, Mathieu? Des centaines de salariés de SEB à côté de l'Assemblée nationale tapant dans leur poêle Tefal.
C'est notre travail qu'on a entre les mains et on veut nous interdire de le faire.
Voilà, touche pas à ma poêle, écrit partout. Manifestation contre la proposition de loi du député écologiste Nicolas Thierry, examinée ce jeudi pour interdire à partir de 2025, donc l'an prochain, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tout produit contenant des PFAS, ces polluants éternels dont on vous a déjà parlé. Jamais ils ne disparaissent de l'environnement. On en retrouve partout, y compris dans les pôles ou en plein milieu des océans. Et dans le tas de ces PFAS, il y a le PTFE, c'est-à-dire le revêtement anti-adhésif des poêles. Mais les salariés me l'ont affirmé toutes et tous hier.
C'est pas dangereux, c'est pas vrai, c'est des mensonges.
Nos produits, nous, sont totalement inoffensifs.
Il ne faut pas mélanger PFAS et PFAS. Ceux-là, ils sont pas nocifs pour la santé. Enfin, je veux dire, notre groupe ne fait pas n'importe quoi. Il ne veut pas empoisonner les gens. Hein.
Regardez, 56 ans j'ai, 30 ans de PTFE.
Si c'était dangereux ces produits-là, je vous garantis qu'on n'en ferait plus. Hein.
Ils ont que ça à foutre, d'emmerder les gens qui bossent.
Tefal, c'est le poumon de Rumi. Vous arrivez à l'entrée de Rumi, la grosse poêle.
C'est une fierté pour vous.
C'est une fierté pour nous.
Voilà, hors de question qu'on leur enlève leur emploi, c'est la menace qu'a brandi dans la presse le patron du groupe, SEB, Thierry de la Tour d'Arthez. 3000 emplois menacés selon lui. Il était là aussi hier, mais pas aux manettes, il me l'a dit.
Cette manifestation, elle n'est pas organisée par nous, elle est organisée par nos partenaires sociaux qui ont décidé de venir à Paris manifester parce qu'ils sont inquiets. Comme nous considérons que le risque est réel, nous nous associons à cette manifestation par notre présence. Point barre.
C'est vous qui avez acheminé les bus quand même.
Mais non.
Vérification auprès d'une déléguée syndicale.
C'est la direction qui a payé les bus.
C'est sûr?
Oui.
C'est pas les syndicats?
Non.
Vous êtes délégué syndical?
Oui, moi je suis secrétaire du CSE Tefal. C'est Tefal qui paye les bus.
Donc c'est Tefal en fait qui a payé tout le déplacement.
Ouais, ouais.
Bon, ça c'était pour la petite histoire. Sur le fond du sujet, là aussi le boss est catégorique et pas du tout agacé.
La science s'est prononcée, écoutez-moi, la science s'est prononcée. Elle dit il y a des polymères et des non-polymères. Les polymères ne sont pas dangereux parce que la structure de la molécule fait qu'elle ne peut pas se dissoudre. Nous, c'est des polymères.
Donc en gros, ce que vous dites, c'est qu'aucun des éléments qui sont utilisés dans la fabrication d'une poêle aujourd'hui Tefal,
oui,
n'est dangereux ni pour l'environnement.
Absolument.
Ni pour la santé.
Tout à fait, c'est ce que nous vous disons.
Ils mentent, je te jure qu'ils mentent littéralement, ce n'est pas vrai, il y a des rejets.
Alors là, c'est l'activiste Camille Etienne qui les agace aussi depuis qu'elle les affiche partout sur les réseaux sociaux avec un documentaire diffusé en ligne.
Mais si elle veut venir, on l'invite.
Mais oui, qu'elle vienne.
Passez-lui le message.
Voilà, c'est fait. Et donc, j'ai vérifié aussi en appelant deux chercheurs spécialistes de ces contaminants dits émergents. Pierre Labadie, d'abord, chimiste de l'environnement au CNRS, le PTFE, donc polymère, qui soi-disant ne se dissout pas. Est-il bien totalement inoffensif?
En fait, pour prendre la mesure de la question ou du problème, plutôt, il faut prendre du recul et il faut considérer l'ensemble du cycle de vie du polymère. La phase de production peut mener à l'émission dans l'environnement de composés potentiellement toxiques. La phase initiale d'utilisation dans un contexte industriel, quand on manipule le téflon pour pouvoir, par exemple, le mouler, on est obligé de le chauffer, ça peut mener à des émissions et c'est très bien documenté. Et ce qui se pose également, c'est la question de la fin de vie de ces polymères, puisque s'ils sont pas incinérés dans des conditions correctes, c'est-à-dire à des températures extrêmement élevées, là, on peut former à nouveau des composés potentiellement toxiques. Donc, c'est très important d'avoir cette vision globale. Sinon, c'est une présentation qui est tronquée. Voilà, honnêtement, c'est un peu malhonnête quand même.
Pas de danger lors de l'utilisation dans votre cuisine, mais donc ne pas occulter tout le cycle de vie. Yann Amino, chercheur à l'IFREMER, enfonce le clou.
L'industrie essaye de forcer le terme de « polymère of low concern », qui est un terme qui n'a pas d'existence législatif, donc c'est auto-certifié, peu préoccupant. Mais en fait, il n'y a pas de consensus scientifique, pas du tout, je dirais même bien au contraire.
Après, leur ai-je quand même opposé, il n'y a pas non plus d'études scientifiques démontrant fermement qu'il y a un danger avéré. Et c'est justement le problème pour les scientifiques. On ne sait pas tout, donc principe de précaution en cas de doute. Seule la partie émergée de l'iceberg est analysée aujourd'hui. Quelques dizaines de molécules, quand la famille des PFAS en compte des milliers, voire plus. Et en plus, ils galèrent parce que des substituts apparaissent en permanence, donc difficile pour ces scientifiques de suivre le rythme.
On a un petit jeu de dupes où on va remplacer un composé par un autre. Et c'est bien pour ça qu'il est question de traiter, réglementer cette famille de contaminants d'un coup, de les considérer comme une classe de contaminants et non comme des molécules individuelles. Sinon, on n'arrivera jamais au bout. On parle de plusieurs milliers de molécules. C'est impossible de les traiter une par une.
Le cas par cas est pourtant ce que demandent les industriels comme Seb. Pierre Labadie du CNRS, lui, met une question au centre du débat.
Qu'est-ce qui relève de l'usage essentiel? Et qu'est-ce qui relève de l'usage de confort?
Parce qu'il n'existe aujourd'hui, par exemple, pas d'alternative à certains PFAS utilisés dans le médical, les prothèses, les cathéters, les valves. Peut-on, en revanche, se faire cuire un œuf dans une poêle en inox, fabriquée aussi par Tefal, mais loin des 200 000 par jour en PTFE? La question se pose. Pierre Labadie conclut.
Sur le site de Rumini, on voit une contamination massive des sols, des eaux, par des composés qui sont associés au Teflon. Si en fait c'était si vertueux que ça, on ne trouverait pas tous ces composés-là sur la zone. Et franchement, la situation à Rumilly, j'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais à Rumilly et à Pierre-Bénite, je pense que le terme scandale sanitaire va être repris dans les années qui viennent.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter sur la page de La Terre au Carré.
Et loi Laurent, quand vous entendez tout ça, on peut comprendre ces salariés qui ont peur pour leur savoir-faire. Parce que même si on leur dit maintenant vous faites des poêles en inox, c'est plus la même chose. Ils n'ont pas forcément les compétences ni les outils. Comment est-ce qu'on arrive pour le coup à coopérer dans tout ça?
Ça, c'est vraiment une question qui n'est pas simple. D'abord, alors il y a des dizaines de remarques qu'on peut faire sur ce reportage qui est absolument passionnant. La première remarque, c'est le retour du thème de la pollution chimique dans les grands thèmes de l'écologie. C'est un thème par lequel, souvenons-nous, Rachel Carson a mis la question écologique au centre avec la question du DDT. On a un petit peu oublié ou dont on a moins parlé. Et là, le retour de la pollution chimique, avec à commencer par le plastique, mais aussi les PFAS, revient en force. Et donc, on a cette question de la chimie et des centaines de milliers, millions de molécules que nous avons produites, qui d'ailleurs ont été produites par les humains à mesure qu'ils ont détruit des espèces vivantes. Il y a un mouvement absolument fascinant de remplacement en fait des espèces vivantes et des principes vivants par des molécules chimiques et par ce monde en fait effectivement artificiel qui est tiré de l'intelligence humaine. Ensuite, il y a la question sociale versus question écologique qui est au cœur du reportage et ça commence comme ça. C'est évidemment pas la question des salariés et de leurs responsabilités. C'est la manière dont un certain discours que moi j'appelle le populisme anti-écologique est à l'œuvre et instrumentalise l'urgence sociale contre l'urgence écologique. Et on a ça
et
absolument.
Sanitaire.
Et sanitaire. Et on a ça sous les yeux. D'accord ? En Europe, partout, et on a vu ça avec le débat sur l'agriculture française. D'accord ? Puisque nous sommes partis d'un débat qui était fondamentalement le pacte vert européen est en train de détruire l'agriculture en France et c'est une question sociale, etc. Moyennant quoi on a abaissé toutes les réglementations environnementales, aucune des questions sociales fondamentales qui sont posées au monde agricole aujourd'hui, à commencer par le niveau de revenu, la pauvreté, etc., n'a été réglée par le gouvernement.
Mais donc, sauf que, est-ce que ça peut être une réponse pour ces ouvriers Tefal de leur dire vous faites du populisme anti-écologique ?
Sûrement pas, c'est pas ce que je dis et je me permettrai certainement pas de dire ça de ces ouvriers. Par contre, le patron, en l'occurrence, qui vient, d'accord,
Qui paye tout.
Il a absolument cette logique de l'instrumentalisation de la question sociale contre la question écologique, parce que c'est sa responsabilité de faire en sorte que ces procédés ne soient pas évidemment, d'abord destructeur de la santé des ouvriers eux-mêmes. Et c'est là où la question sanitaire fait le lien entre l'écologique et le social. Mais il ne peut pas en être sûr. Il faudrait s'en remettre à la science. Et effectivement, la science est en train d'émerger. Et on a vu ça déjà 100 fois. La question des marchands de doute et le fait de dire si on n'a pas de preuves, donc, etc. On a vu ça sur la question du climat. Donc, les scientifiques que vous avez interrogés ont raison de dire qu'en fait, on est au début, à l'aube d'un scandale sanitaire qui ne va faire que de prendre de l'ampleur, d'accord ? Donc c'est vraiment une espèce de condensé de tous les débats qu'on a, la puissance des lobbies économiques, la question sociale qui est instrumentalisée contre la question écologique, la question de la connaissance, du doute, de la confiance, et la question de la confiance est centrale. Où est-ce qu'on peut avoir confiance aujourd'hui dans le fait que, par exemple, on a un gouvernement qui va vraiment se saisir de la question écologique, en faire une norme qu'on ne puisse pas manipuler ? D'accord ? Beaucoup de lobbies aujourd'hui se disent non, le gouvernement en fait n'est pas sérieux sur la question écologique, donc c'est le moment de faire ce genre d'instrumentalisation. Et est-ce qu'on peut avoir confiance dans la vocation sociale de ce gouvernement ? Est-ce que ces salariés peuvent se dire bon, je retrouverai du travail ailleurs, où je peux me former, où on peut faire pression pour que notre propre santé ne soit pas mise en danger ? Ils sont eux-mêmes instrumentalisés là-dedans parce qu'évidemment, on est face au retour de l'austérité. Donc on voit très bien qu'on a une responsabilité, à mon avis, très supérieure des politiques publiques sur cette question qui est essentiel.
Mais la lutte, c'est aussi la coopération. On pourra en parler tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de mobilisation sur le terrain. C'est aussi peut-être depuis le Covid ce qu'on observe beaucoup. Et on verra si ça rentre dans cette idée de coopération telle que vous la proposez. Éloi Laurent.
Elle boit du matcha avec ses copains. Elle pense aux garçons qui lui font du mal. Mélange le yoga et les aspirines. Elle vit sa vie comme si c'était un drame. Elle sait plus pourquoi le soir elle déprime. Avant de plonger dans un rêve subliminal. Mais tu disparaîtras sur son cœur en ruine. Alors qu'elle part à la recherche d'un idéal. Avec ses copines, oublie les garçons qui lui font du mal. Un peu à l'étroit dans sa paire de jeans. Passer des heures à éviter les drames. Elle met des tonnes de crème sur son visage. Oh mon Dieu, comme c'est criminel de prendre de l'âge. Pas d'amour en vue dans son paysage, mais seulement quelques traumatismes. fois ce garçon qui lui fait du mal.
Bacha Queen, c'était Yoa sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
Coopérer et se faire confiance par tous les temps. Rue de l'Échiquier, vaste programme Éloi Laurent. Et face à votre constat sur la dégradation de nos liens sociaux, on en parlait tout à l'heure, comment pratiquement est-ce qu'on peut mener une politique de la coopération? À quoi ça ressemblerait alors?
Alors, il y a déjà des gouvernements qui sont sur le sujet. Le gouvernement anglais a créé, croyez-le ou non, un ministère de la solitude. Pour précisément prendre à bras le corps la question, il y a des projets de loi au Congrès américain sur la question de la revitalisation des liens sociaux. Il y a aussi une réflexion en cours au Japon. En France, effectivement, pour l'instant, on n'y est pas. Moi, je pense qu'il y a deux sujets essentiels. La première, c'est ce que j'appelle la politique des liens. C'est-à-dire comprendre qu'il y a vraiment un effort politique à faire sur des choses très simples, comme la question de la coopération au travail, sur le fait de restaurer des espaces et des temps de coopération. Donc la politique des liens, c'est les liens dans toutes les dimensions. Ça peut être aussi bien le fait de protéger une fois de plus les enfants, les adolescents des logiques hyper utilitaristes qui ont cours aujourd'hui et ont trait en matière d'éducation, mais ça peut être aussi sur la question de la santé, d'avoir une approche beaucoup plus communautaire de la santé au sens de la santé communautaire, c'est-à-dire du fait que la santé est immergée dans un ensemble plus vaste de liens sociaux et que c'est pas seulement vous avez une maladie, vous avez une thérapie et c'est terminé. C'est-à-dire que la question de la santé, c'est pas juste le soin, c'est les liens sociaux qui sont tout autour des gens.
Mais justement, pardon, le ministère de la Santé, c'est celui aussi du travail et des solidarités. Il y a quand même le mot solidarité.
Oui, sauf qu'on se demande un petit peu quand est la dernière fois qu'on a effectivement fait une politique de solidarité. Ce qu'on a, ce sont des politiques de désolidarisation. Quand vous attaquez les services publics, quand vous réduisez la question de la protection sociale, vous attaquez en fait au pacte social, au contrat social que les Françaises et les Français ont passé avec eux-mêmes. Donc on n'a pas du tout aujourd'hui cette... Je crois que la vraie question, c'est la question, ce que j'appelle dans le livre, le temps de coopération.
Ouais.
C'est-à-dire le fait de comprendre qu'en fait le numérique et l'économisme, l'emprise numérique et l'emprise économique dévorent le temps avant tout. Et que quand on parle autour de soi, la chose dont les gens manquent fondamentalement, c'est ça, c'est du temps, qui soit pas juste du temps libre, parce qu'aujourd'hui, le temps libre est colonisé par le numérique, qui soit du temps de coopération.
Alors, par exemple, dans le domaine de la santé, c'est intéressant, parce que vous dites qu'il faut redonner du temps, par exemple, aux soignants. Et on avait un exemple très intéressant hier matin sur l'antenne de Sylvie Hoffmann. Elle est infirmière et c'est l'héroïne du nouveau film documentaire de Sébastien Lifshitz qui s'appelle Madame Hoffmann. Elle était hier matin au micro de Sonia Duvillers. Je vous propose de l'écouter.
Comment on fait pour recruter des infirmières?
C'est horrible parce que déjà, il n'y en a pas sur le marché du travail. Et comment vous voulez vendre quelque chose en disant oui, vous allez travailler 12 heures par jour, vous allez travailler Noël, vous allez travailler jour de l'an, Pâques, des fois vous allez faire des nuits supplémentaires. Et la plupart du temps, les jeunes recrues me demandent, mais on est payé combien? Oui, mais là, c'est pas moi qui décide du paiement, on est dans la fonction publique, donc c'est l'État qui décide. Et quand vous parlez du salaire, on vous dit, bon, d'accord, ne retenez pas ma candidature, je vais aller voir ailleurs.
Éloi Laurent, exemple très concret, de ce qui se passe aujourd'hui dans les services publics et dans le monde de la santé en particulier. Comment on attire de jeunes infirmières, de jeunes soignants?
Alors, en changeant complètement la manière dont l'hôpital public est dévoré par les logiques collaboratives. Ça fait 15 ans, 20 ans que tous les gens qui observent l'hôpital public disent « L'hôpital public, c'est un exemple parfait d'une institution de coopération qui est transformée en institution hyper collaborative et qui se dégrade d'année en année sur tous les plans. C'est-à-dire à la fois sur le plan du service rendu, sur le plan de l'épuisement des soignants, etc. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté les fichiers Excel qui font que les hôpitaux sont soumis à des logiques financières néo-managériales. André Grimaldi documente ça très très bien. Et de l'autre, la question numérique, qui fait que vous avez par exemple typiquement les infirmières. Là, l'accent est mis sur le salaire. Il n'y a aucun doute sur le fait que le salaire est important. Les infirmières se plaignent de devenir des maltraitantes alors qu'elles voudraient être des soignantes. Parce
qu'elles n'ont plus
le temps de pouvoir discuter avec un patient. Vous savez très bien que quand vous rentrez dans une chambre d'hôpital, la question, c'est pas vous poser la perf sans rien dire. Si vous posez une perfusion à quelqu'un sans même lui adresser un mot ou un regard parce que vous êtes pressé et que vous avez exactement 5 minutes avant de passer à l'autre patient, c'est pas du soin et c'est encore moins de la santé. Le fait de dire un mot, ne serait-ce que comment ça va, mais bien sûr, ensuite, engager une conversation, c'est rentrer dans un échange. Et ce qu'il y a de fascinant avec la coopération humaine, non seulement c'est ce qui nous distingue du reste du vivant, mais je dis dans le livre, c'est aussi ce qui nous distingue des machines. C'est la part inimitable de notre intelligence. Parce que vous ne savez jamais comment une conversation à quoi une conversation peut mener et les points d'accord, les points qui vont faire que vous allez tout d'un coup échanger. Et dans une conversation, on a tous eu cette expérience-là avec une infirmière, tout d'un coup, il y a un lien qui se fait qui peut être extrêmement puissant et ça suppose d'avoir ce temps de coopération.
Camille, des messages des
auditeurs. Oui, Jean-Dominique nous écrit « Nous vivons dans une culture de la compétition dans tous les domaines, hein, social, économique, politique, sportif. L'engouement pour les Jeux Olympiques en est l'illustration, enfin en tout cas l'engouement des organisateurs. Son ampleur est préoccupante sur cet esprit de compétition. »
Alors, c'est intéressant parce que précisément, la distinction collaboration-coopération permet de faire un pas de côté par rapport à l'opposition classique entre coopération et compétition. Ce qu'on a en tête tous et toutes, c'est d'un côté, il y a la collaboration, on fait les choses ensemble, etc. De l'autre, il y a la concurrence, la compétition, on s'oppose les uns aux autres et la collaboration est préférable à la concurrence. Ce que je dis, moi, c'est qu'en fait, il y a un troisième terme, qui est le terme de coopération. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des choses ensemble dans un esprit purement utilitariste, une fois de plus monétisé, quantifié, etc. Typiquement, une conversation sur les réseaux sociaux aujourd'hui, d'accord, où la question, c'est de pouvoir avoir le follower, le truc, le machin, et de dire ce qu'il faut pour être dans le bon réseau et avoir les bons likes et les bonnes étoiles, etc. Ou alors, effectivement, avoir une vraie conversation qui, par définition, n'a pas vraiment d'horizon fini, n'a pas vraiment d'objet fini. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que, par exemple, dans la science, les découvertes qui sont faites, elles sont souvent faites par hasard, au sens où on cherche quelque chose de précis dans un temps donné, avec des moyens donnés, et on va trouver tout à fait autre chose. Et c'est justement cet espace de liberté qui, à mon avis, est le cœur de la prospérité. Donc, je suis d'accord
sur le fait... Ça, c'est la science fondamentale. Hein. C'est oui. Une science pour laquelle militent les scientifiques, justement.
Bien
beaucoup,
sûr,
hein.
Exactement. La science libre.
Et qu'on malmène aussi,
non,
beaucoup.
Mais quand vous faites de l'évaluation de projets de recherche, qui m'arrive dans ma vie de chercheur, vous êtes amené de plus en plus à faire de l'évaluation de projets de recherche. Quand on découpe un projet en 5 unités, où on dit exactement ce qu'on va trouver, comment on va le trouver, avec qui on va le trouver, quand on va le trouver, etc. Donc concrètement, on ne va rien trouver, c'est évident. C'est-à-dire, concrètement, c'est on met en scène une connaissance qui en fait est déjà là, et il y a des papiers qui sont fascinants sur le fait de montrer comment le numérique coïncide depuis 20 ans avec une baisse dans l'innovation scientifique. C'est tout à fait fascinant. C'est-à-dire, on croit qu'on est dans un monde dans lequel des technologies absolument révolutionnaires sont inventées tous les matins. Et ce qu'on regarde, ce qu'on montre en fait, c'est que le caractère disruptif de la connaissance en fait est de moins en moins fort du fait précisément de ces outils qui donnent l'illusion de la connaissance déjà là.
Mais à vous écouter depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est vraiment le numérique le pire de tout, quoi. Hein,
non, en fait, c'est l'alliance entre l'économique et le numérique. Mais je crois qu'on ne fera pas l'économie d'une conversation sur le numérique.
Et comment on fait l'économie du numérique alors ? Comment on se désintoxique aussi ?
Alors, il ne faut pas faire l'économie du numérique. Ça, elle existe, et on a la tech, etc. C'est le cœur du capitalisme mondial aujourd'hui. C'est plusieurs milliers de milliards de dollars. L'économie du numérique, elle va très bien, elle se porte très bien. Merci pour elle. La question, c'est comment remettre la main sur ça. C'est-à-dire comment restaurer de la coopération dans ces réseaux. On ne va pas détruire tous les réseaux. Mmh. Mais par contre, on peut utiliser... et c'est notamment ce que j'essaye d'indiquer à la fin du livre, des communautés affectives qui sont créées par ces outils numériques pour en faire autre chose. Voilà, par exemple, l'idée selon laquelle on peut commencer à communiquer par le numérique et ensuite, tout de suite, rapidement, se voir.
Transformer l'essai en réel.
Voilà, et œuvrer ensemble. Par contre, si on s'enferme dans des processus qui sont, et ce qu'on a avec l'intelligence artificielle, dans lesquels on est de plus en plus enfermé dans ces processus-là, donc vous avez raison Camille, c'est pas seulement le numérique, c'est pas un livre contre le numérique. C'est d'abord contre l'accélération du numérique qui est sous nos yeux avec l'intelligence artificielle. Et ce que je dis, c'est qu'en face de ça, il y a l'intelligence collective. Mmh. Et de l'autre côté, c'est de comprendre que les deux se sont combinés au début des années 90 et qu'on est dans ce néolibéralisme numérique.
Voilà. Un peu s'en servir, Camille Etienne, on l'entendait, elle se sert par exemple du numérique pour créer des rassemblements un peu partout dans le monde. Parce que Marcel nous écrit, il y a un mot qu'on n'a jamais prononcé, c'est l'anarchisme qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un repli sur soi, mais une coopération fédérale permanente au-delà des intérêts partisans. Qu'est-ce que vous en pensez de cette définition qu'il nous donne ?
L'anarchisme, définir ça comme une coopération permanente, je ne sais pas. En tout cas, moi je vois le côté très anarchique, on va dire, dans l'organisation numérique, par exemple, et ça me convainc pas beaucoup. C'est-à-dire que l'idée sur laquelle, au bout d'un moment, il y a quand même un pouvoir central qui contrôle absolument tout ça, me paraît absolument irréfutable. Mais, en tout cas, inventer... La vraie question derrière est peut-être plus intéressante, c'est il faut inventer de nouvelles formes de coopération pour faire face aux chocs écologiques qui sont déjà là. Et ces nouvelles formes de coopération, quand on parle d'innovation, on parle d'inventer des machines, des techniques. L'innovation dans laquelle nous excellons, nous les humains, c'est l'innovation sociale.
Mais justement, on en voit plein en ce moment, des mobilisations, des luttes qui s'organisent partout sur le terrain, comme jamais d'ailleurs depuis le Covid.
Oui.
Et ça, c'est une bonne nouvelle quand même.
Bien
c'est
sûr.
De la coopération. C'est des
Absolument.
Français et des Françaises qui se mobilisent pour défendre le vivant, par exemple.
Et non seulement ça, mais des coopérations entre les humains et les non-humains. C'est-à-dire, quand vous avez des mouvements qui disent « nous sommes la nature en train de se défendre », ce qu'ils disent, c'est « nous sommes en train de coopérer avec elle ». L'exemple de l'A69 et du fait que vous avez des écureuils qui montent dans des arbres pour protéger les arbres et qu'une mésange bleue vient nicher et parce qu'elle nidifie, l'Office central, l'Office français de la biodiversité dit c'est une espèce protégée
elle
et vous ne pouvez
l'allié.
Plus.
Elle devient un allié.
On en a fait un allié et on a vu cet exemple-là avec la chouette tachetée aux États-Unis. C'est-à-dire le fait de construire ces coopérations, y compris avec les écosystèmes et avec les animaux, effectivement, ça nous rend plus intelligents. C'est-à-dire cette absurdité totale qu'est la 69, en un sens, est suspendue par la mésange bleue. C'est absolument magnifique.
Oui, sauf que vous avez vu toute l'énergie qui a été dépensée avant par les écureuils et par toutes celles et ceux qui se sont mobilisés. Quand même, c'est un peu décourageant parce que...
Non, c'est ça l'énergie humaine. L'énergie humaine, c'est ça.
Non, mais il y a le hasard de la mésange bleue quand même qui est bien tombé.
Qui n'est pas bien tombé, parce que s'il ne l'avait pas fait, et si en fait ce bois, la crémade, avait été complètement rasé déjà, la mésange bleue n'aurait pas pu être là. Donc je trouve qu'il y a quelque chose à apprendre, une fois de plus, de cette...
Ouais. En tout cas, dans cette crise des liens sociaux, il y a quand même des choses qui se passent. Voilà, ce n'est pas non plus un constat totalement noir.
Pas
quand
du
on
tout.
Regarde ce qui se passe sur le terrain, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réjouissantes.
Bien sûr. La moitié du livre, en fait, grosso modo, au début du livre, j'essaye de montrer que la coopération et pas la collaboration est le cœur de la prospérité. Ensuite, de montrer que la coopération est en crise et toute la troisième partie du livre est consacrée au fait de régénérer la
Comment
coopération.
On fait, ouais.
Et dans toutes les sphères. Et on a parlé d'éducation, on a parlé de santé, c'est vrai aussi pour la question
travail.
Du travail, et c'est vrai aussi, bien sûr, pour la question écologique au sens large. Si on prend la question récente du voyage du président de la République en Guyane et pour la défense de la forêt amazonienne, on sait que l'Amazonie aujourd'hui tient encore du fait de la coopération des communautés indigènes qui font que ce qui est encore préservé, c'est précisément des formes de coopération sociale et écologiques qui ont permis de préserver la forêt amazonienne. Donc non, bien sûr, il y a des... Et par exemple, prenons la question des communautés énergétiques en Europe, comment est-ce qu'on arrive à développer les renouvelables en réinventant les liens sociaux ? Ça concerne des millions et des millions de gens en Europe aujourd'hui.
Message de Michel, ce sont nos hommes et femmes politiques, y compris présidents, qui n'utilisent pour nous expliquer ce qui va bien ou mal que les statistiques. On a oublié dans tout cela les humains. Et tant qu'on considérera que les humains ne sont que des variables des statistiques, la vie sera de plus en plus compliquée. J'imagine que vous êtes d'accord.
Oui, compliqué au sens statistique du terme, mais aussi de plus en plus inefficace. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce règne des indicateurs et ce règne, effectivement, de la quantification et de la collaboration est de plus en plus visiblement contre-productif. C'est-à-dire que, typiquement, l'hôpital en est un exemple absolument formidable. C'est-à-dire, vous voulez réguler, réglementer les relations, mettre là-dedans de la rationalité budgétaire, de la rationalité économique, de la rationalité numérique, vous désorganisez absolument tout. C'est-à-dire, vous désorganisez des relations humaines qui étaient précisément des relations humaine prospère.
J'ai un message qui vient d'arriver de Jack. Éloi Laurent, il cherche un futur président de la République pour 2027. Seriez-vous dispo ? Demande-t-il.
Alors, pas du tout. Moi, mon métier, c'est d'être chercheur. Je suis très flatté de cette proposition. Par contre, j'espère vraiment qu'on aura cette question des liens au cœur, mais déjà de la campagne des élections européennes.
Oui, mais est-ce que vous pensez que les candidats potentiels actuels, donc qui sont un peu tous du même sérail, si on doit le résumer comme ça, vont pas reproduire les choses ? Est-ce qu'il faudrait pas que des gens un petit peu différents émergent aussi ?
Je crois qu'il y a des gens différents qui sont en train d'émerger. Je crois qu'il y a des gens différents qui sont en train d'émerger aujourd'hui, qui sont pas forcément encore visibles, mais qui sont en train d'émerger. Mais au-delà des gens, la question, c'est la question de la thématique. Et si on pouvait mettre cela de question de la politique des liens au cœur, oui, effectivement, je crois que ce serait utile.
Et puis, une question fondamentale, évidemment, c'est celle de la montée du populisme anti-écologique. Vous en avez parlé tout à l'heure. Alors qu'on vit une des années les plus chaudes de l'histoire, eh bien, on voit une intensification de ces discours politiques qui visent à saper, finalement, tous les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Comment on peut essayer d'empêcher ce raz-de-marée là, qui est en train d'arriver ?
Alors, c'est un raz-de-marée. En même temps, il est très amplifié par des gens qui ont intérêt à ces discours. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement, toxique dans le débat public actuel, qui est de faire croire qu'en donnant la parole à tous les camps, on restaure une forme d'équilibre dans le débat public parce que le débat public serait, approprié par des camps popularisés, des wokistes, des écologistes radicaux, etc. Il faudrait surtout entendre encore plus les conservateurs et l'extrême droite pour faire en sorte d'avoir des débats équilibrés.
C'est dangereux pour vous ?
C'est un piège absolu. C'est
pourquoi
ce qui s'est passé pour la démocratie. Le piège, c'est de faire rentrer des discours et de légitimer des discours qui sont fondamentalement des discours antidémocratiques. Pas des discours qui sont illégitimes pour ceux qu'ils disent, des discours qui sont illégitimes parce qu'ils sont contre tous les discours et contre le pluralisme lui-même. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis. On a vu que cette religion, soi-disant, de la parole équilibrée a conduit à la destruction de la démocratie.
Éloi Laurent, coopérer et se faire confiance, c'est aux éditions de la Rue de l'Échiquier. Merci beaucoup d'être venu dans la Terre au Carré.